Philippe vous présente Alternative, une semaine sur deux, le vendredi à 17h, en alternance avec le samedi à 13h. Il évoquera les pistes différentes qui tentent de résoudre les grands défis de notre époque.
Bonjour à toutes et bonjour à tous. Aujourd'hui, je vais vous parler de sécurité. Ça va pas rigoler. Ou plutôt de la dérive sécuritaire qu'on observe actuellement et qui transforme les hommes libres dans un grand filet, comme disait Montesquieu. Alors la sécurité, vous le savez, c'est dans l'air du temps. Partout dans les médias, il ne se passe pas une semaine en ce moment sans qu'on parle de crimes, de viols, d'enlèvements, de règlements de compte et de la menace terroriste, bien sûr. On a donc l'impression que c'est Chicago. Les cités de non-droit, tout ça, on est en danger, on vous dit. Et c'est pour ça que fleurit un peu partout le concept de voisin vigilant, abusivement appelé vigilance citoyenne. Abusivement parce que y a rien de citoyen là-dedans, quand on sait que ce truc peut favoriser l'espionnite entre voisins et l'apparition des milices autoproclamées dans le pire des cas. Et c'est ce qui explique aussi la relative indifférence devant la mise en place de la loi sur le renseignement. Mais cela, j'y reviendrai. Alors la sécurité, il faut savoir que ce n'est pas une idée nouvelle. Déjà au XVIe siècle, la Compagnie du Saint-Sacrement préconisait la politique du grand enfermement des pauvres. Et les régimes totalitaires, bien évidemment, ont toujours favorisé la mise à l'écart des classes dites « dangereuses ». Certes, on n'en est pas encore là, mais on voit s'installer insidieusement une tendance sécuritaire, et ce, dans l'indifférence générale pour des raisons que j'ai expliquées plus haut. Alors, c'est pour cette raison que le slogan « La sécurité est la première des libertés », associé à la droite extrême avant 1990, est devenu maintenant un poncif politique répété par tous, de Le Pen à Manuel Valls, malheureusement. Alors, c'est en 1997 que la gauche est au pouvoir et que Jean-Pierre Chevènement est alors ministre de l'Intérieur. C'est à cette époque que la gauche entame paradoxalement son tournant sécuritaire. Jean-Pierre Chevènement est bien connu pour son amour de l'ordre républicain et s'efforce alors de démontrer l'équation entre gauche et laxisme. Avec des formules du genre « dur avec le crime » et « dur avec les causes du crime ». Alors, c'est le 19 janvier 1997, encore une date que je vous donne, Lionel Jospin déclare « La sécurité, garante de la liberté, est un droit fondamental de la personne humaine. Après le chômage, bien sûr, c'est la priorité du gouvernement et cette formule ne quittera plus jamais le Parti Socialiste. » Alors, pour justifier cette pirouette, le PS s'appuie sur la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 qui stipule dans son article 2, je vous le donne en totalité, « Le but de toute association politique est la conservation des droits naturels et imprescriptibles de l'homme. Ces droits sont la liberté, la sûreté et la résistance à l'oppression. » Et là, le contresens, la sûreté n'est pas la sécurité. La sûreté, pris dans le sens de la Déclaration des droits de l'homme, c'est l'assurance pour le citoyen que le pouvoir de l'État ne s'exercera pas sur lui de façon arbitraire et excessive. Une arrestation arbitraire, ça peut être un emprisonnement, etc. Donc les lettres de cachet sous l'Ancien Régime, par exemple. Le droit à la sûreté, c'est donc la garantie des libertés individuelles du citoyen. Quant à la sécurité, c'est tout ce qui touche au risque physique. Le vol, l'arrestation, l'agression, l'incendie, etc., etc. Et c'est cette volonté de sécurité qui donne le droit d'ingérence de la police dans les existences individuelles. C'est exactement l'inverse du droit à la sûreté. Donc je pense que vous saisissez le contresens. Alors, c'est ce contresens qui a permis, entre autres, pour flatter l'électorat d'extrême droite, mais pas que, mais c'est aussi pour traiter pénalement les questions sociales qu'ont été instaurées la LOPCI 1 sous Chirac, la LOPCI 2 sous Sarkozy, la proposition de loi sur la responsabilité des parents mineurs délinquants en 2000, qui n'est pas passée, La loi sur la réduction des risques de récidive criminelle, alors ça c'était à Lyon-Marie en 2010, et le projet de loi sur le renseignement qui est en discussion mais qui va être voté bien certainement cet après-midi par le gouvernement Valls. Tout cet arsenal ne visant majoritairement que les jeunes et les pauvres, bien évidemment. Alors, il faut savoir que les gouvernements de droite, et en particulier celui de Nicolas Sarkozy, ont multiplié les textes sécuritaires. Bon, évidemment, les cités, ça fera un peu catalogue, mais on peut donner l'expulsion des délinquants étrangers, la punition du racolage passif, bannir la politisation de la magistrature, supprimer le syndicat de la magistrature, ou le rétablissement des justes de paix, qui sont des notables ou des gendarmes locaux dont on peut douter de l'impartialité. Un gendarme qui arrête les délinquants et puis qui juge les délinquants, ça fait un petit peu juger parti. Alors, le gouvernement de gauche, malheureusement, s'est bien gardé de revenir sur ces textes. Bon, et bien maintenant, écoutons Arosta Joan Petit de Nadao.
País de vino franco que se lleven per milies contra el gran rey de Francia en 1643. Mes oprobot en 1643. Venta a guerra havent causit tres captals, li la furco laute la palio, i han petit que roro tres anys. Més a prou vot, més a prou vot, i han petit que roro tres anys. Per tot oro ci tenio, cosa per a bon la miseria la sang. Més a prou vot, més a prou vot, que la miseria la sang. I que estum per trop d'aïro, venits per los capirats, ets que viven de traïdo, sóc quina paja m'he canviat. Quina paja m'he canviat. Cruixin tu los os d'aquest temps que era la moda des moria t'autros atros. Més a prou vot, més a prou vot, des moria t'autros atros. I que estuio triste danza dalla camo e lo per i eludi Més a prou vot,
fuera que hagáis un viaje, capres camis de cansús, de camis de ronda taos mainalles, me suey que saber tu bello. Mes oprobot, mes oprobot, me suey que saber tu bello.
Alors le débat qui agite en ce moment la classe politique et qui commence à interpeller tous les citoyens, c'est la loi sur le renseignement. Alors ce qui semble légitimer ce projet de loi, ce sont bien sûr les événements de janvier dernier et tout le battage médiatique qu'on a fait autour, qui fait peur. On sent le besoin de sécurité. Mais il faut bien être conscient que, et là je cite Benjamin Franklin, un peuple prêt à sacrifier un peu de sa liberté pour un peu de sécurité ne mérite ni l'un ni l'autre et finit par perdre les deux. La loi sur le renseignement, il faut le savoir, était déjà dans les cartons depuis 2 ans. Les événements de janvier dernier n'ont servi que d'éléments déclencheurs. Maintenant, voici quelques raisons qui vous expliqueront pourquoi on a tort de ne pas s'intéresser à cette loi. Alors d'abord, la critique ne vient pas uniquement de quelques mouvances libertaires, des cercles geeks ou des activités du web qui crient au loup pour un oui ou pour un non. Elle vient de la Ligue des droits de l'homme, d'Amnesty International, des avocats, des magistrats, de Reporters sans frontières qui dénoncent un texte liberticide. Le projet est d'organiser l'impunité de l'État. Et là, on est complètement à l'inverse de la sûreté, hein, vous le voyez bien. Les possibles dérives policières et les surveillances de masse, pas moins. Enfin, ça commence à faire beaucoup de monde, hein, vous ne trouvez pas ? On entend souvent « Moi, je n'ai rien à me reprocher, donc je ne suis pas concerné ». Manuel Valls a beau jurer la main sur le cœur qu'aucune correspondance privée ne sera concernée et que le courrier ne sera pas ouvert. Sauf que les services de sécurité auront accès aux données de connexion, ce qu'on appelle les métadonnées. On saura donc à qui vous écrivez, qui vous écrit, quand, depuis quelle adresse, même si le courrier n'est pas ouvert. En plus, avec les métadonnées, on connaît vos mots de passe, votre réseau, vos historiques et vos recherches sur 5 ans. Alors, Madame Michu, toujours rien à vous reprocher ? Un conseil, ne tapez plus de djihad sur votre clavier. Prévention des violences collectives susceptibles de porter atteinte à la sûreté nationale. En clair, ça veut dire quoi ? Si vous participez à une manif contre les violences policières, ou pourquoi pas contre le TAFTA ou contre les OGM, alors deux cas de figure se présentent. Premièrement, vous n'êtes pas identifié. Alors les services de renseignement peuvent utiliser une valise espionne pour savoir qui vous êtes. Je reviendrai sur cette valise espionne. Deuxième cas, vous êtes identifié. Alors là, la spirale du renseignement se met en marche. Donc, écoute téléphonique, faux courriel, faux fax, etc. Vos données peuvent être demandées aux hébergeurs. Qui appelle qui se connecte à quoi, quand, où, etc. Mise en place de balises sur les véhicules, sur les objets, pose de micro au domicile. Mise en place de mouchards sur l'ordinateur et filature classique dans la rue, dans les cafés, etc. Alors on ose imaginer l'utilisation d'un tel système entre les mains d'un pouvoir politique fort. Ça, c'est ça qui fait peur. Alors les valises espionnes sont les gadgets high-tech de l'espion du 21e siècle. Elles interceptent toutes les communications vocales, mais aussi écrites comme les SMS, et de tous les mobiles dans un rayon de 500 mètres. L'appareil peut espionner n'importe qui et pas seulement les terroristes. Il peut espionner les conversations privées qui se déroulent dans un espace de 500 mètres autour de la valise. Il tient donc dans une petite valise ou un sac à dos et se présente comme un ordinateur portable avec une antenne. On appelle ces dispositifs les IMSI Catcher, littéralement attrapeur de IMSI. Le IMSI, il faut savoir que c'est le numéro unique qui est stocké sur la carte SIM et qui permet à chaque portable de se connecter à l'antenne relais la plus proche. Alors à ce moment-là, l'opérateur étant alors sous vos fenêtres ou proche de vous, son antenne de l'ordinateur remplace l'antenne relais. Voilà, il écoute toutes vos conversations et identifie votre numéro de téléphone. Et tout le monde, bien sûr, peut être écouté sans exception. Inquiétant, non ? Alors, Madame Michu, heureuse ? Un autre système sera aussi mis en place sur Internet, ce qu'on appelle les boîtes noires. Alors, c'est quoi une boîte noire ? Tout simplement, c'est un dispositif placé chez les fournisseurs d'accès Internet, un algorithme. Un algorithme, c'est un programme mathématique qui fonctionne un peu comme un filet. Soit vous tapez des banalités et alors, pas de problème, soit vous donnez une opinion sur un sujet un peu chaud. Par exemple, vous ne voyez pas d'inconvénient au port du voile dans la rue, par exemple, et vous vous trouvez dans la spirale du renseignement. C'est ça qu'on appelle la surveillance de masse, et c'est ça qui est dangereux. Et pas belle la vie. Bon, allez, c'est pour votre bien. C'est pour votre sécurité qu'on vous dit qu'on va faire adopter ce texte à la hussarde au grand galop. Les députés n'ont eu que peu de temps pour prendre connaissance de la loi, présentée au Conseil des ministres le 19 mars seulement. Et les amendements ont dû être déposés fin avril, donc c'est très récent. Ce texte doit être examiné donc en procédure d'urgence à l'Assemblée. Et certains députés avouent leur ignorance et s'apprêtent donc à voter un texte dont ils ne mesurent ni la portée ni le sens. Il reste donc très peu de temps aux associations pour se mobiliser, puisque cette loi doit être votée cet après-midi, donc le 5 mai. On se demande pourquoi une telle rapidité. À mon avis, c'est pour faire taire les opposants. Alors, il faut savoir que tous les textes sécuritaires récents s'articulent autour d'une vision très cohérente de l'organisation sociale. Face à un libéralisme tout puissant, à un essor économique inexistant et à un chômage qui ne peut pas baisser et qui ne baissera donc jamais, un traitement social des populations inactives, pauvres et sans espoir nécessite une autre politique de redistribution des richesses et du travail. Une autre politique des services publics que le libéralisme et le MEDEF ne peuvent pas accepter. Que faire alors des immigrés, des chômeurs, des délinquants, si ce n'est que les séparer des populations dites utiles, les électeurs, les salariés, etc. Les gouvernements successifs n'ont donc pas d'autre choix que d'appliquer un traitement pénal de masse aux populations délaissées, de revenir à une grande régression conservatrice et au grand enfermement du XVIIe siècle. Cette vision est d'autant plus intéressante que tout est business et que l'industrie de la punition est créatrice d'emplois. Vive la baisse du chômage dans ces conditions.
Sur les merveilles des nuits, sur le pain blanc des journées, sur les saisons fiancées. J'écris trop. Sur tous mes chiffons d'azur, sur l'étang soleil moisi, sur le lac lune vivante. Sur les champs, sur l'horizon, sur les ailes des oiseaux et sur le moulin des ombres. Sur mes cahiers d'écoliers, sur mon pupitre et les arbres, sur le sable, sur la neige. Des nuages, sur les sueurs de l'orage, sur la pluie épaisse et fade. J'écris ton nom.
Et ben voilà, ben c'est pas gay, hein, ça plombe un peu l'ambiance, mais malheureusement, hein, c'est comme ça. Alors il faut que les citoyens se mobilisent, mais le problème c'est que se révolter sans preuve contre des pratiques occultes des services de renseignement, c'est délicat et voire impossible. Par contre, ce qui est possible, c'est de faire de l'information, c'est d'interpeller les députés, et de toute façon, je pense qu'on n'a pas fini de parler de cette loi, et des problèmes qu'elle va occasionner. Et voilà, donc comme toujours, vous pouvez réécouter l'émission sur le www.radiobartas.net. Salut!
Philippe vous présente Alternative, une semaine sur deux, le vendredi à 17h, en alternance avec le samedi à 13h. Il évoquera les pistes différentes qui tentent de résoudre les grands défis de notre époque.